Deutsche Welle, Info, Matin.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition de nos informations. Il est 7h pile à Banjul et en temps universel. La Gambie où tout le pays attend le retour d'Adama Barrow, le président élu qui devrait regagner son pays ce mercredi sous la protection des forces armées de la CEDEAO. Ils viennent de nommer une ex-ministre de Yahya Jammeh comme vice-présidente.
Libération de centaines de prisonniers au Burundi. 300 prisonniers ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Cette libération des prisonniers politiques est l'une des conditions posées par l'Union européenne pour reprendre son assistance au Burundi.
Au Congo-Brazzaville, l'opposition reste divisée sur la série d'élections que propose d'organiser le gouvernement cette année. Nous verrons le rôle joué par la société civile face à ces divergences. Info Matin, c'est aussi la CAN 2017 au Gabon avec Ali Farhat. Bonjour Ali.
Bonjour à toutes et à tous. Victoire de la Tunisie, 4 buts à 2 hier face au Zimbabwe. La Tunisie qui finit deuxième du groupe B derrière le Sénégal qui a tenu en échec l'Algérie 2-2. On connaît donc les affiches des deux premiers quarts de finale qui se disputeront samedi. Burkina Faso, Tunisie et Sénégal, Cameroun.
Le Tchad qui traverse une grave crise économique consécutive à la chute des recettes pétrolières. En 2 ans, le PIB du pays est passé de près de 14 milliards à 10 milliards de dollars. Nous en parlons dans votre magazine L'Afrique qui bouge juste après le sport. Vous êtes prêts? Nous aussi. Mais c'est d'abord votre flash info. Qu'aussi vite sous compromis, Donald Trump a marqué la rupture avec Obama sur le libre-échange.
Donald Trump a entamé sa présidence en signant l'acte de retrait des États-Unis du traité de libre-échange transpacifique, le TTP, dont l'administration de Barack Obama avait fait l'une de ses priorités. Ce traité a été signé en 2015 après négociations par 12 pays d'Asie-Pacifique, représentant 40% de l'économie mondiale. Le gouvernement australien a promis tout faire pour sauver le traité en l'absence des États-Unis et a tendu la main à la Chine. Il y a aussi la possibilité que le TTP aille de l'avance à les États-Unis. Certainement, il y a le potentiel pour que la Chine nous rejoigne. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre australien Malcolm Turnbull.
Le chef du Pentagone assure l'engagement inébranlable de Washington à l'OTAN.
C'est ce qu'a déclaré le ministre américain de la Défense, James Mattis, lors d'un appel avec son homologue britannique, Michael Fallon. Les deux ministres se sont également engagés à travailler ensemble en vue d'éliminer le groupe djihadiste État islamique. Le président américain Donald Trump avait estimé de son côté pendant sa campagne électorale que l'Alliance Atlantique était obsolète. La première ministre britannique Theresa May sera vendredi prochain le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouveau président américain Donald Trump exactement une semaine après son investiture.
Et justement, en Grande-Bretagne, la Cour suprême se prononce sur le Brexit.
Elle doit trancher ce mardi sur la nécessité ou non pour le gouvernement de consulter le Parlement avant de lancer les négociations de sortie de l'Union européenne. Une décision qui pourrait compliquer la tâche de Theresa May. Nombre d'observateurs s'attendent à voir les 11 juges confirmer la décision de la Haute Cour de Londres selon laquelle le déclenchement de l'article 50 du traité de Lisbonne, l'article qui lancera les négociations de sortie avec Bruxelles, requiert l'aval des députés.
À Mossoul, l'EU expulse des habitants de la rive ouest du Tigre pour se défendre.
Le groupe djihadiste État islamique a expulsé des habitants de la rive ouest du Tigre pour se préparer à une possible attaque des forces irakiennes. Les forces irakiennes ont récemment repris la quasi-totalité de la partie est de Mossoul, ville traversée par le Tigre. L'État islamique contrôle toujours l'ouest de la métropole nord du pays, habitée par environ 2 millions de personnes avant l'arrivée de l'État islamique en 2014.
Enfin, poursuite des négociations syriennes, mais apparemment sans avancée.
Les discussions ont avant tout porté hier sur le cessez-le-feu instauré le 30 décembre en Syrie grâce à la médiation russo-turque. Une trêve qui a conduit à une réduction de la violence malgré des violations régulières. Les rebelles ont en revanche refusé à la dernière minute de négocier face à face avec les émissaires du régime, même s'ils étaient tous assis autour de la même table pendant la cérémonie d'ouverture. La nouvelle administration américaine se dit de son côté ouverte à une coopération avec la Russie contre le groupe État islamique dans ce pays.
C'était le Flash Info de Kossi Vitiachu. Il est 7h05 à Lomé, c'est la capitale du Togo. Le nouveau président gambien Adama Barrow va rentrer de son exil au Sénégal aujourd'hui. C'est du moins ce qu'a annoncé son porte-parole Alifa Salah. Ce dernier a par ailleurs confirmé la nomination par le nouveau président gambien d'une vice-présidente et c'est l'ex-ministre de Yahya Jammeh, Fatoumata Diallo Tabayang, qui assumera cette fonction.
Militante des droits des femmes, la nouvelle vice-présidente a été ministre de la Santé durant la présidence de Yahya Jammeh. Elle fait partie de la coalition de l'opposition et a soutenu la candidature d'Adama Barrow lors du scrutin présidentiel du 1er décembre.
Alifa Salah, qui accusait aussi le président Yahya Jammeh d'avoir vidé les caisses de l'État, est revenu sur ses propos en affirmant que la Banque centrale de Gambie était intacte après donc le départ de Yahya Jammeh du pouvoir. Mais d'ailleurs, que pèse la Gambie sur le plan économique? C'est ce que tente de nous expliquer Eric Topona avec une toute petite enquête.
Enclavée dans le Sénégal, la Gambie a une économie qui repose essentiellement sur l'agriculture et le tourisme. Bien que ce dernier secteur génère beaucoup de recettes, l'économie gambienne ne s'en portait pas mieux, d'où le vote sanction contre Yahya Jammeh, selon l'altermondialiste Demba Moussa Dembélé. Par ailleurs, économiste et directeur du Forum africain des alternatives au Sénégal.
Les gens ont voté pour la plupart des petits travaux passés par là. L'économie n'allait pas bien, ça, il faut le dire. Et peut-être que cela explique en partie pourquoi les gens ont voté pour le challenger de Yahya Jammeh, pour voir s'il y aura une certaine amélioration. Parce qu'il faut dire que, compte tenu du comportement de Jammeh, il y avait une certaine défiance de la part des investisseurs potentiels pour venir au pays, parce qu'il n'y avait pas une certaine sécurité pour leur investissement. Et par conséquent, il y avait énormément de problèmes sur le plan économique et social.
Une position développée également par le politologue sénégalais Moussa Diaw. Il doute même du caractère licite des ressources de la Gambie sous l'ère Yahya Jammeh.
La Gambie n'avait pas beaucoup de ressources. Il n'y a que les ressources naturelles. Yahya Jammeh était dans des réseaux transnationaux et on doute d'ailleurs de cet argent, comment il a pu accumuler tout cet argent-là. Il y a ce qu'on appelle la criminalité de l'État, cette interaction entre certains pouvoirs politiques en Afrique et des réseaux transnationaux en termes de blanchiment d'argent, en termes d'argent sale. Les autorités vont mettre en place une commission de voir la provenance de cet argent-là et de saisir les instances judiciaires compétentes en la matière.
Les proches d'Adama Barrow accusent aussi Yahya Jammeh d'avoir emporté avec lui au moins 10 véhicules de luxe embarqués dans des avions cargo. Plus grave, l'un des conseillers d'Adama Barrow a même affirmé que les archives nationales logées au sein de la présidence auraient été brûlées. Seule une enquête permettra d'établir la véracité de ces informations.
Eh bien, nous continuerons de suivre pour vous l'actualité sociopolitique en cours en ce moment en Gambie. Et puis, juste avant de rendre l'antenne, vous retrouverez Mireille Drone dans votre rubrique « À vous la parole » consacrée justement à la Gambie.
Deutsche Welle, rendez-vous sur facebook.com/dw.français.
Direction l'Afrique centrale pour parler du Burundi où 300 prisonniers ont été libérés hier suite à une mesure de grâce présidentielle. Parmi ces prisonniers figurent des détenus politiques opposés au troisième mandat du président burundais Pierre Nkurunziza.
Certains d'entre eux ont purgé 5 ans d'emprisonnement et d'autres les 3/4 de leur peine. Officiellement, il s'agit d'une intention du président Pierre Nkurunziza de créer des conditions plus propices dans les prisons surpeuplées. Or, la libération des prisonniers politique est l'une des conditions posées par l'Union européenne pour reprendre son assistance au Burundi. L'opération a été lancée à la prison centrale de Bujumbura. Le récit avec Antediteste Niragira.
C'est dans cette ambiance que les prisonniers attendaient le lancement de la grâce présidentielle. L'amnistie touche naturellement même les prisonniers politiques. La ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'adresse à la foule. Aimé Laurentine Kanyana.
Le président de la République du Burundi a bien voulu toucher ceux qui ont été condamnés pour des actes criminels commis lors des mouvements insurrectionnels qui ont été organisés depuis 2014. Cette mesure concerne deux catégories de détenus. Il s'agit de ceux qui ont obtenu la remise totale de leur peine et ceux dont la peine a été commuée.
Jean-Marie Ndayishimiye se surnomme Moto le Feu. C'est un militant du parti Mouvement pour la solidarité et la démocratie. Se réjouissant de la mesure de clémence dont il bénéficie, il songe toujours à ses camarades qui croupissent encore en prison et crient pour leur mise à liberté.
Nous sommes heureux, mais nous avons nos frères encore en prison et qui sont accusés d'avoir attaqué les camps militaires. Nous demandons leur libération. Les détenus politiques sont nombreux en prison. Qu'ils soient libérés pour que nous construisions le pays afin de vivre en paix. Le président est toujours en poste. Qu'il nous pardonne à nous tous.
Les opposants au régime Nkurunziza contactés à propos se gardent encore de commenter la mesure juste au début du processus de libération. 300 prisonniers, hommes, femmes et enfants ont été libérés. François-Xavier Ndarouzanié préside la Ligue des droits de l'homme Isélé. Il salue cette libération, une solution à la surpopulation carcérale.
Il y a des jeunes qui avaient été manipulés, qui avaient encore besoin de vivre, d'étudier, de vaquer à leurs activités pour se développer, mais qui croupissaient dans les maisons de détention. Nous espérons que ces jeunes ne vont pas encore replonger dans la violence. Ils ont été sûrement redressés. Cette mesure va essayer aussi de dégonfler les maisons de détention parce qu'il y a encore un nombre imposant de prisonniers.
2500 prisonniers seront graciés au niveau national. Antelites Néragira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
Je rappelle que le Burundi est plongé dans une grave crise politique depuis l'annonce en avril 2015 de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé et son élection en juillet de la même année. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 300 000 personnes à quitter le pays. Nous restons dans la région pour parler de la République démocratique du Congo. Le vieil opposant congolais Étienne Tshisekedi, lui, a quitté tôt ce matin Kinshasa pour Bruxelles.
Étienne Tshisekedi quitte la RDC alors que son parti est en pleine négociation avec la majorité présidentielle sur le partage du pouvoir jusqu'à la prochaine présidentielle. Selon la formation politique et l'UDPS, ce voyage médical longtemps programmé a été plusieurs fois reporté à cause de la situation politique en RDC.
Étienne Tshisekedi est rentré triomphalement au Congo fin juillet après près de 2 ans de convalescence dans la capitale belge. Des centaines de milliers de Congolais était alors venu l'accueillir dans ce qui reste le plus grand rassemblement politique des 5 dernières années à Kinshasa.
De l'autre côté du fleuve au Congo-Brazzaville, les partis politiques de l'opposition ont du mal à s'accorder sur une participation ou non à la série d'élections que le gouvernement organise cette année. Si certains opposants appellent à revoir le système électoral, d'autres estiment qu'il faut y aller dans les mêmes conditions qui ont vu l'élection en mars du président Denis Sassou Nguesso.
Et face à ces divergences, la société civile appelle à peser le climat politique dans le pays. Les précisions de Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Pour l'opposant Pascal Tsatsima Biala de l'UPADS, il faut aller à ces élections pour espérer lutter dans les institutions et prendre démocratiquement le pouvoir un jour.
Ces conditions sont mauvaises. Nous allons nous battre. Nous allons obtenir tant soit peu l'amélioration des conditions. Mais je vous dis d'avance qu'il y a plus de probabilités que nous allions aux élections que nous n'y allons pas. Et nous avons l'expérience de cette élection présidentielle. Là où le vote a été sécurisé, M. Sassou n'a pas gagné. Il n'a pas pu gagner. C'est possible d'aller.
Mais d'autres voix plus radicales à l'opposition estiment qu'il faut d'abord assainir le système électoral. Clément Mirassa de la plateforme IDC Frocade, CJ3M.
Mais il faut un débat pour qu'on arrive à un bon découpage électoral. Ce sont des questions qu'il faut regarder froidement, honnêtement.
Dans la sérénité, la majorité est déjà à la préparation des élections. Clotaire Didier Boutindi s'est dit candidat dans le pool.
Aujourd'hui, l'opposition n'a pas de conditions à poser. Nous devons organiser l'élection. En bonne et due forme, je pense qu'à mon avis, il n'y a pas de problème. Moi-même, je suis candidat dans le district de Goma-Tété. Donc, à mon avis, il n'y a pas de problème.
La France a annoncé son soutien multiforme à ces élections qui permettront de renouveler cette année les sièges à l'Assemblée nationale, au Sénat et d'élire les maires de communes. De son côté, la société civile appelle à apaiser les climats politiques pour éviter les violences post-électorales. Luamba Moké, président de la DUC, une ONG locale.
Que l'État mette la paix avant que les élections puissent être organisées. Il ne faut pas qu'il nous montre un théâtre qui n'est pas bon, parce qu'aujourd'hui nous avons la situation du département du Poul, que eux, les hommes politiques n'arrivent pas à résoudre. Et alors maintenant, le département du Poul va être exclu pour les élections. Donc je pense bien que le grand problème, c'est d'abord la paix.
Notons que les dates de ces élections ne sont pas encore fixées. Arsène Séverin à Brazzaville pour la Deutsche Welle.
En plus bref, après la Tanzanie, le président turc Recep Tayyip Erdogan poursuit sa tournée africaine au Mozambique où il doit rencontrer son homologue Felipe Nyusi et évoquer notamment les activités du prédicateur Fethullah Gulen qu'il accuse d'avoir ourdi un putsch militaire manqué en Turquie en juillet dernier. Après le Mozambique, le chef de l'État turc se rendra à Madagascar.
D'après des sources européennes, la chancelière allemande Angela Merkel a été en 2016 une des cible favorite de la désinformation orchestrée par la Russie, une campagne qui pourrait s'amplifier à l'approche des élections cette année selon l'Union européenne. La chef de la diplomatie de l'Union, Federica Mogherini, a lancé en 2015 un groupe de travail chargé spécifiquement des opérations de désinformation russe. En 15 mois de travail, ce groupe de travail qui dispose d'un site internet a identifié 2500 exemples en 18 langues d'histoire et contredisant des faits publiquement connus.
Il est 8h16 à Bruxelles, la capitale européenne. C'est la même heure à Libreville, à Franceville et à OIM.
Deutsche Welle, le sport. Ali Farhat.
C'était une très belle partie et puis ils ont bien joué. Et voilà le résultat, 4 buts, c'est très bien.
Voilà, ce supporter tunisien a de quoi être contraire à lui. Hein, parce que la Tunisie a marqué à 4 reprises face au Zimbabwe hier soir à Libreville. Et s'envole donc pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. J'en connais qui sont très très heureux.
Un match riche en buts qui ne s'est pas déroulé devant beaucoup de monde. En effet, seulement 1852 personnes ont assisté à la rencontre la plus prolifique du tournoi pour l'instant.
Mais Ali, vous êtes fort, hein, vous avez compté les... les spectateurs.
Un par un sur mon écran. La Tunisie, qui n'avait besoin que d'un point dans ce groupe B pour se qualifier, a préféré ne pas calculer et a pris les devants. C'est Naïm Sliti qui a ouvert le score à la 12e minute, suivi 10 minutes plus tard par Youssef Msakni. Et à la 36e, Ta Yassine Khenissi portait le score à 3-0.
Mais on se dit alors que c'est terminé, sauf que les Zimbabwéens n'ont rien lâché, Ali.
Absolument rien.
En effet, un peu surpris par l'entame du match des Aigles de Carthage, les Warriors ont été sonnés mais ont quand même réussi à reprendre leurs esprits. À la 43e minute, Naouledj Moussona se jouait de la défense tunisienne et inscrivait un des plus beaux buts du tournoi. Mais 2 minutes plus tard, Wabi Kazri portait la marque à 4-1 sur penalty. Le Zimbabwe réagira en seconde période avec un but de Tendai Ndoro, mais trop tard, la Tunisie s'impose 4-2. On écoute la réaction d'après-match de Henri Kasperziak, le sélectionneur des Aigles de Carthage.
On a joué ces matchs pour gagner et on a réussi parce que c'est vrai que les Zimbabwéens, ils étaient surpris par notre comportement, par la présence, l'agressivité de mes joueurs et aussi l'efficacité parce qu'on a créé des occasions et on a marqué des buts. Donc je crois qu'il faut rester dans la continuité et ce qu'on a démontré déjà depuis la reprise de la compétition et surtout il faut rester nous-mêmes, comme on joue, il faut continuer. Et les matchs suivants, ce sera aussi un match pour gagner.
Alors Ali, la Tunisie qui se qualifie donc, mais reste derrière le Sénégal, les Lions.
Oui, puisque à Franceville, les Lions du pays de la Teranga ont évolué avec une équipe très remaniée face à l'Algérie. L'objectif pour le sélectionneur Aliou Cissé était de faire participer tout le monde et de s'offrir de nouvelles solutions en marge du quart de finale samedi prochain contre le Cameroun. Les Fenech, qui jouaient le tout pour le tout, ont ouvert la marque par Islam Slimani. Le Sénégal a répliqué par Pape Kouli Diop juste avant la mi-temps. Slimani a remis l'Algérie devant, mais Moussa Sow a égalisé juste derrière. Score final 2-2. Le Sénégal termine en tête de la poule B avec 7 points, devant la Tunisie 6 points. Troisième, l'Algérie avec 2 points est éliminée, tout comme le Zimbabwe, 1 point.
Mais tu savais, en quart de finale, ça ne va pas être facile pour les Tunisiens face aux Burkinabés. Hein.
Oui,
ça
oui,
va
les chauffer. Burkinabés qui sont très très solides et qui sont très très discrets et qui avancent toujours dans la discrétion, mais qui s'avèrent très efficaces en effet.
Ali, tu connais la promesse d'Aliou Cissé ?
Dites-moi.
Il a dit que si le Sénégal prenait le trophée, il allait se couper les rastas qu'il a. c'est une très belle promesse.
Et ce soir, amusé.
Voilà. Ali, ce soir, dénouement dans le groupe C. Hein.
Oui, avec le Maroc qui affronte la Côte d'Ivoire à Oyem et puis à Port-Gentil, où Kossivi sera probablement en direct. Togo va devoir mettre un paquet de buts pour éliminer la République démocratique du Congo. Début de ces deux rencontres à 19h en temps universel.
Mais pour ne pas gâcher ma soirée, encore plus que j'ai l'émission matinale demain, à 19h j'irai au lit.
Très bien.
Moi, je sais que je vais faire encore des jaloux, mais je suis pour la République démocratique du Congo pour cette CAN 2017 au Gabon. Il est 8h20 dans la capitale gabonaise d'ailleurs.
L'Afrique qui bouge. Reportage économique.
Depuis plusieurs mois, le Tchad connaît une grave crise économique. Le pays subit de plein fouet la chute des recettes pétrolières et a vu son PIB baisser de 13,95 milliards à 10,44 milliards de dollars entre 2014 et 2016.
Idriss Déby Itno a indiqué que la crise financière que traverse le Tchad est liée d'une part à la chute du prix du baril de pétrole sur le marché mondial, mais également à la masse salariale qui, selon lui, est très élevée. Les explications de Dariston Blaise, notre correspondant à N'Djamena.
La masse salariale tchadienne est de 8 milliards de francs CFA par mois en 2002. Propos du président Idriss Déby Itno dans un document audio que s'est procuré la Deutsche Welle. Mais c'est le contraire après l'entrée du Tchad en octobre 2003 dans le cercle des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Aujourd'hui, cette masse salariale avoisine 50 milliards de francs CFA. Depuis la chute du prix du baril de pétrole, le Tchad peine à répondre aux besoins de ses salariés. Cet argument ne convainc pas l'économiste Dr Antoine Dujidinga.
À un moment donné, le gouvernement a cédé certaines régies financières aux particuliers, comme la délivrance des passeports, la délivrance des permis de conduire, la délivrance des cartes nationales d'identité, etc. etc. Or, ces recettes devraient venir compléter donc les ressources publiques hors pétrole. Le deuxième facteur interne, c'est la corruption qui a pris son ampleur au cours de la période sous exploitation de pétrole. Et même les plus hautes autorités sont intervenues plusieurs fois pour dire « arrêtez de voler ». Donc il y a eu des détournements massifs et ces détournements ont coûté cher au trésor public.
Faisant une comparaison entre le Tchad et le Cameroun, Idriss Déby Itno a souhaité que le SMIC, qui était de 60 000 francs CFA, équivalent de 90 euros, soit revu en baisse à 30 000 francs CFA, à environ 45 euros. Pour l'économiste, c'est une fausse comparaison que fait Idriss Déby Itno.
Le Cameroun est un pays qui a une économie très diversifiée, où il y a des petites unités industrielles et autres. C'est un pays côtier également qui a profité de son port, non seulement parce que les marchandises viennent directement et les coûts sont faibles, mais aussi parce que le port a servi de transit à beaucoup d'autres pays, dont le Tchad. Effectivement, la situation du Cameroun ne peut pas être comparée à celle du Tchad. D'abord par la structure même de l'économie camerounaise. Le coût de vie au Cameroun n'est pas le même que celui du Tchad. Avec 50 000 francs au Cameroun, un étudiant ou bien une famille avec 150 000 peuvent vivre correctement au Cameroun. Le salaire devrait être indexé sur le pouvoir d'achat, sur l'indice de prix. On sait qu'au Tchad, il y a eu beaucoup de spéculation sur les prix, De sorte que aujourd'hui, un fonctionnaire qui gagne même 400-500 000 ne peut pas vivre aisément et correctement de son revenu.
Une opinion partagée par l'ancien Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi, basculé dans le rang de l'opposition et candidat à la présidentielle d'avril 2016.
Le Tchad n'était pas le meilleur pays en Afrique et dans le monde. On a fait un effort pour que la situation sociale des gens soit le moins mauvais possible. Donc on a fait des progrès et ces progrès-là, on ne doit pas les remettre en cause. Et si ça ne marche pas, il faut chercher les causes loin. Quand on a vu un peu d'argent de pétrole, il y en a qui sont mis à manger plus que les autres. Il y avait un problème d'ordre éthique. Je ne pense pas que le Tchad ait un niveau de dépenses publiques en disproportion par rapport à son PIB, par rapport à ce que je sais. Quand on est parti au Mali, le FMI a dit « Votre intervention au Mali, ça coûte au moins 120 milliards ». Mais nous disons non. Nous sommes très indisciplinés, c'est ça.
Des propos qui ont irrité plus d'un travailleur. Gounou Vaïma Ganfaré, secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, UST.
Ce que le président dit, ce n'est pas correct. Parce que le SMIC, c'est le président de lui-même qui a fait une déclaration pour donner 60 000 francs. Oui. Le syndicat simplement s'est saisi de sa déclaration pour demander sa formalisation. On avait laissé l'économie dans la main de certaines personnes qui ont augmenté les prix. Donc le coût de vie était devenu plus cher. Et sans cette augmentation, personne ne pouvait bien vivre. Ne serait-ce que même acheter de mille, ainsi de suite et tout ça. Le gouvernement travaille pour sa population. Si sa population n'est pas à l'aise, c'est là où tout le problème vient. Donc il faut penser beaucoup plus à mettre sa population à l'aise avant de prendre une décision.
Selon une source contactée par la Deutsche Welle, le Tchad doit une faramineuse somme de 700 milliards de francs CFA à la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Et la tâche ne s'annonce pas facile pour le remboursement car tous les créanciers récupèrent leur argent à la source sur tous les fonds à destination du Tchad. Darius Tonblaise, en Diamena pour la Deutsche Welle.
Le Tchad où nous saluons nos auditeurs de Mundu, c'est dans le sud du pays.
À vous la parole.
Émirat Drone a rassemblé ce matin vos commentaires au sujet de la Gambie.
C'est un ouf de soulagement pour le peuple gambien après tant d'heures de dialogue qui était le seul moyen de comprendre les intentions de Yahya Jammeh et le faire partir, estime Bewezima de Lomé au Togo. Selon lui, on a évité une effusion de sang. Pour la première fois, la CDAO a pu gérer une crise. Reste à savoir quel sera l'avenir de la Gambie sous l'ère Barrow. La marraine de New York se réjouit aussi du ballet diplomatique fructueux à Banjul.
La crise gambienne a eu son dénouement heureux sans effusion de sang grâce à l'engagement des présidents guinéens et mauritaniens qui ont réussi à convaincre Yahya Jammeh de laisser le pouvoir à Adama Barrow. On doit féliciter tous les acteurs de ce processus qui ont joué un grand rôle afin d'épargner notre continent d'une nouvelle guerre. Cette réussite diplomatique est un signal fort envoyé au reste du monde pour leur montrer que l'Afrique peut résoudre ses crises sans leur apport. Enfin, ces deux médiateurs, Alpha Condé et le président mauritanien, je les invite à savoir quitter les affaires au biais d'une élection transparente dans leur pays respectif. Merci.
Hyacinthe de Nyonga au Congo-Brazzaville regrette que cet engagement ne soit pas le même partout.
On veille au respect du choix de la majorité des Gambiens, mais pas à celui de bien d'autres majorités à travers le continent. Ce deux poids, deux mesures est pour quelque chose dans les dérives démocratiques en Afrique. Certains dirigeants qui volent les scrutins ou qui ne respectent pas leur constitution sont moins inquiétés que d'autres.
Moussa de Douala au Cameroun trouve lui déplorable pour l'Afrique et la CDAO en particulier de s'engager dans ce qu'il appelle une ingérence étrangère. Là, ils sont solidaires alors qu'un pays comme le Nigeria est débordé par Boko Haram. Mais la CDAO n'a rien pu faire pour stopper le terrorisme dans la sous-région, regrette Moussa. Et puis au sujet de la CAN 2017 au Gabon, l'un de nos auditeurs togolais se dit persuadé que son pays qui joue aujourd'hui contre la RDC l'emportera et que le Togo sera en finale le 5 février prochain. Mais Guy Emilien de Bouka avouant RDC, se dit sûr que son pays va gagner. Nos joueurs sont forts et déterminés, affirme-t-il.
À 7h28 et sur notre radio partenaire, la radio Citadelle à Vaughan, Kossi Vite a su le rappel des titres.
Le nouveau président gambien regagne son pays aujourd'hui, Adama Barrow, qui hier a nommé une ancienne ministre de Yahya Jammeh comme vice-présidente. Au Burundi, 300 prisonniers ont bénéficié d'une grâce présidentielle. La libération de ces prisonniers politiques est l'une des conditions posées par l'Union européenne pour reprendre son assistance au pays.
Si vous nous écoutez sur la radio Citadelle à Vaughan au Togo, c'est la fin de cette première édition de nos informations. Nous nous retrouverons à 17h, temps universel, pour une nouvelle édition en français sur la Deutsche Welle. Il est l'heure de nous dire
au revoir, tchuss.
À très très bientôt.